Le massacre de Cantemerle. Le quadruple crime qui amène Henri Bouquet devant les assises de Toulouse a causé l'an dernier une émotion profonde dans la région de Villefranche-de-Lauragais. C'est d'un drame d'amour qu'il s'agit, d'un drame qui a eu, comme on va le voir, le plus effroyable dénouement. Dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, Henri Bouquet, l'accusé, assassinait à coups de couteau, à coups de fourche et à coups de barre de fer son ancien patron, M. Séris, propriétaire de la ferme des Cantemerle près de Villefranche, Madame Séris et le vieux domestique des deux époux, Louis Caussinus. Une quatrième victime, Mademoiselle Marie Séris, a survécu contre toute attente à ces horribles blessures. Henri Bouquet est un garçon de 35 ans, à la physionomie assez douce, aux yeux un peu singuliers. Il porte la petite moustache brune et il est vêtu de la longue blouse bleue des campagnards. Son interrogatoire va nous édifier sur tous les épisodes de cette tragédie rurale. Demande. Vous êtes entré en 1888 au service de monsieur et madame Séris comme valet de labour. Vous n'avez pas tardé à vous éprendre de la fille de vos maîtres. Mademoiselle Marie Séris, âgée de 21 ans, osez lui faire confidence de votre amour. Vous entreteniez tous les voisins de votre passion et de vos projets de mariage. Un jour enfin, vous vous êtes décidé à faire part de vos intentions à monsieur et madame Séris, qui ont refusé de donner leur fille à un simple domestique. Et au surplus, mademoiselle Séris, pressentie par eux, avait opposé à votre demande un non catégorique. Vous avez tenu alors des propos significatifs. Oh, il faudra bien qu'on me la donne, de gré ou de force, répétiez-vous. Est-ce vrai? Oui, je voulais qu'elle fût à moi. Je croyais la rendre heureuse. Vous êtes arrangé, en effet, pour compromettre la pauvre fille. Le jour des rameaux, pendant que le père et la mère étaient à la messe, vous avez pénétré dans la chambre de Mademoiselle Séris, restée seule avec vous à la ferme. Vous l'avez surprise au moment où elle boutonnait ses bottines. Vous lui avez demandé si elle voulait devenir votre femme. Qu'a-t-elle répondu? Elle a répondu non. Alors vous êtes jeté sur elle, vous l'avez renversée, et vous avez essayé d'abuser d'elle. N'avez-vous pas enfermé dans la chambre? Oh non, elle est bien sortie tout de même. Je vais vous ouvert. C'est-à-dire que, se voyant entre vos mains et sur le point d'être déshonorée, la jeune fille vous a promis de vous épouser. Alors vous l'avez laissée aller, mais cette promesse n'avait pu lui être arrachée que sous le coup de la terreur la plus vive. Et à peine libre, Marie Séris a couru prévenir son père qui vous a chassé sur le champ. Voici le premier épisode. Le lever du rideau, si j'ose parler ainsi. De ce chef, Henri Bousquet a s'y renvoyé devant la cour d'assises pour attentat à la pudeur avec violence. Mais j'arrive à l'assassinat, au massacre de toute la famille Séris. Renvoyé de la ferme de Cantemerle, vous êtes loué à Saint-Lieu-de-Lard, à la métairie de Plaplanel, dans l'Aude. Vous avez raconté que la pensée de Mademoiselle Séris ne quittait plus votre esprit. que son image était constamment dans vos yeux. C'est une véritable obsession. J'allais jusqu'à dire que vous tueriez la jeune fille plutôt que de la voir à un autre. C'est avec cette intention que vous êtes parti dans la nuit du 8 juin pour retourner chez vos maîtres. Je voulais la voir, avoir un dernier entretien avec elle, mademoiselle Cerys. Mais pourquoi emporter un couteau que vous aviez été bien le soin d'aiguiser? Bien pour la tuer, si elle s'opposait à un refus définitif. Tout dormait dans la ferme de Clochemerle quand Merle Clorsepoix Riclet força le portail à l'aide d'une énorme fourche en fer qu'il avait trouvée dans un hangar extérieur à la maison, flattait le chien de garde pour l'empêcher d'aboyer, d'un coup d'épaule brisait la porte de l'habitation et la fourche d'une main, son couteau ouvert dans l'autre, il pénètre sur la pointe du pied dans la chambre de mademoiselle Cerys. Et que comptiez-vous faire? L'éveiller doucement, lui caresser, lui chanter à voix basse, la supplier de venir à moi avec moi. Nous aurions passé 4 ou 5 jours ensemble, après quoi j'aurais renvoyé par une personne de confiance à sa famille. Il aurait été bien forcé de me la donner. Malheureusement, mademoiselle Cerys n'était pas dans son lit. Elle était allée coucher avec sa mère. Le père et le domestique, Cosnus, couchaient dans la pièce contiguë. Vous avez d'abord posé les mains sur le lit de mademoiselle Cerys. Et ce lit était vide. Alors vous vous êtes dirigé vers le lit de la mère et vous avez découvert, écarté les rideaux sans bruit. Et en faisant une nuit, il fait une nuit assez noire, avec un clair de lune presque constamment caché par les nuages. Et dans cette obscurité, à peu près complète, personne ne pouvait vous reconnaître. Alors vous êtes assuré, en vous penchant sur elle, que mademoiselle Véris et sa mère dormaient profondément, et saisissant votre couteau, vous avez poignardé les deux pauvres corps ferme femme avec une telle, comment dirais-je, force, furie, que les couvertures en furent transpercées. Au cri de douleur et d'épouvante des deux blessés, le père s'éveille en sursaut. Le vieux domestique Osinus saute du lit et s'élance au secours de ses maîtres. Et la lutte effroyable s'engage dans la nuit. La scène de carnage va continuer. À la lueur d'un rayon fugitif de la lune, mademoiselle Cerys a reconnu son ancien soupirant. Elle s'enfuit en chemise, pieds nus, tout ensanglantée, le côté droit ouvert d'un coup de couteau. La jeune fille se perd dans la nuit, se traîne comme elle peut jusqu'à la métairie la plus voisine, située à 300 mètres, pour aller chercher de l'aide. Et l'assassin est resté en présence de la mère, déjà grièvement blessée, du père, vieillard de 65 ans, et du domestique Caosinus, qui a aussi une barre de fer dont il cherche à défendre son maître, mais d'un coup de couteau, Bouquet Il ouvre le ventre et le vieux serviteur, dont les entrailles s'échappent par une effroyable plaie, roule, mourant sur le sol en laissant rouler, tomber son arme. Le meurtrier prend la barre des mains du moribond. Les deux vieux, le mari et la femme, se sont déjà affaissés aux pieds de Bouquet qui, dans ce second épisode du drame, a frappé à coups de couteau, à tort et à travers, et qui maintenant s'acharne sur ses anciens patrons. Agenouillé devant vous, Madame Cerise vous supplie de l'épargner, de faire grâce à son mari. Qu'avez-vous fait? Vous avez poignardé la mère et vous avez cloué le père sur le sol d'un coup de fourche dans la poitrine. Et comme il se ferait encore, vous avez levé la terrible hache, barre de fer, que vous aviez prise des mains de défaillantes de Gossinus, vous l'avez écrasé le crâne à tous les deux, la cervelle mêlée au sang s'est répandue sur le carreau, mouvement de horreur dans la salle. Son triple forfait accompli, Henri Bouquet reprend le chemin de Parcelles, refait ses 5 lieues dans la nuit, rentre chez son nouveau patron, se couche, dort paisiblement jusqu'à midi, et après avoir déjeuné, de bon appétit, dit tranquillement à son patron: « Oh, je viens de Carmel, Coswell. J'en ai tué 3 cette nuit. Je crois que le 4e m'a échappé. Il faut aller chercher la gendarme. » Et il se livre lui-même à la police, le public, en disant: « J'ai tué, hein, je mérite d'être tué. » Monsieur le Président Simonet énumère les horribles blessures dont les 4 victimes ont été frappées. Monsieur Cerys a reçu 9 coups de couteau, 10 coups de fourche et un coup de barre de fer qui lui a brisé le crâne. Madame Cerys a reçu 9 coups de couteau et un coup de barre. Le domestique, Caucinus, a reçu 7 coups de couteau. Enfin, Mademoiselle Cerys, qui a échappé providentiellement à la mort, a eu la poitrine trouée de 5 coups de couteau. Je ne voulais pas tuer tant de monde, répond avec placidité l'accusé. Mademoiselle Cerys, aujourd'hui guérie, comparaît comme témoin à l'audience. C'est une jeune fille au trait régulier, aux chevelures à la Vierge, l'air énergique et résolu, coquettement coiffée d'un joli petit foulard noir, tissu en pointe rejeté sur les épaules, qui rappelle de loin la mantille d'Espagne. Sa comparution est très émouvante. Mademoiselle de Cerys semble à chaque instant sur le point de se jeter sur l'assassin de son père et de sa mère. Elle lui montre le poing et l'interpelle vivement dans son patois, comme une paysanne languedocienne. « Ce serait pas trop qu'on te tue devant moi, canaille !» ajoute-t-elle. En français, Bouquet demeure impassible, et Monsieur le Président Simonet met fin à cette, comme je dis, en chargeant, en abrégeant la déposition de la jeune fille. Les médecins, légistes, déclarent unanimement que l'auteur de ces crimes monstrueux n'est point un aliéné. Bouquet a eu des collatéraux épileptiques, mais il ne présente lui-même aucune trace de folie. Plusieurs des anciens maîtres de l'accusé font connaître cependant qu'il avait la manie de demander en mariage toutes les filles, même celles qui avaient des enfants naturels. Et depuis l'assassinat, Bouquet n'a-t-il pas, de sa prison, offert encore à Mademoiselle Marie Méris de l'épouser pour réparer le fait, le mal qu'il lui avait fait? Monsieur l'avocat général, Maître Miel, prononce un réquisitoire énergique. Maître Jean-Bernard Passerieux, du barreau de Toulouse, présente avec une élégance, une émotion, la défense. Il plaide la responsabilité atténuée. Bouquet est condamné à la peine de mort. La cour proclame et ordonne que l'exécution se fera sur une des places de Toulouse. Des applaudissements éclatent de toutes parts. Le condamné se laisse emmener sans aucune apparence d'émotion. Monsieur le Président de la République a commué la peine.